Alors, on est de retour. Quatrième essai. C'est le match est serré. Fait que 4 et 12, on y va-tu quand même? On est à ligne de
4. Wow! On y va tout le temps, Jean-Nic.
Ah, je sais. On n'a pas le choix. On est à l'attaque.
Okay. C'est l'attitude dans la zone payante, après tout.
Exact.
T'as raison. Mais on n'est pas encore dans la zone payante. On est au 40, mais on s'approche. OK. On va commencer par un gars qui, d'après moi, t'es confiant quand tu lui donnes le ballon au quatrième essai. C'est Lamar Jackson. Il y a des crampes au cerveau ces temps-ci. C'est comme si il n'y avait pas un aussi bon début de saison qu'on s'attendait de lui. Est-ce que vous sentez qu'il est épargné par les médias et par les fans en ce moment, Lamar Jackson?
Ben, épargné, c'est un grand mot, tu sais. C'est-à-dire qu'il joue pas le football qu'il jouait l'an passé. Ça signifie pas qu'il joue pas qu'il n'y a pas un niveau de mauvaise qualité, là, tu sais. En ce moment, il y a une nouvelle approche, on dirait, chez les Ravens. On tente de plus en plus de diversifier l'attaque. Tu sais, je pense qu'on a vu du côté des Ravens les limites de la formule de l'attaque au sol à outrance. Là, tu sais, dans les séries depuis 2 ans, ça a été plus difficile. Faut que tu sois moins unidimensionnel. Puis c'est un élément qu'on essaie, je pense, de plus en plus d'incorporer dans le jeu de Lamar Jackson. Tu sais, à ses 2 derniers matchs, j'ai pas la stat devant moi, mais je pense que c'est 37 et 27 passes tentées. C'est pas toujours, là. C'est même très rare qu'on voit ça dans le cas de Lamar. Puis, le résultat, c'est qu'il a complété moins de 60% de ses passes dans ces occasions-là. Comme je disais, c'est pas nécessairement mauvais, là. Il faut pas s'alarmer avec le jeu de Lamar Jackson. Au contraire, il continue de sortir des courses à l'emporte-pièce à tout moment. Il peut revirer à n'importe quel match sur un 10-10. Mais il y a une approche qui est quelque peu différente là, cette année du côté des Ravens. C'est normal là, qu'il y ait peut-être une petite période d'adaptation. Puis, quand le club gagne, de toute façon, ça démontre que Lamar Jackson n'est pas à blâmer là, pour rien ou quoi que ce soit. Si c'est une série de défaites puis que Lamar Jackson joue très mal, puis que là, on n'en parle pas, je pourrais comprendre qu'on dise qu'il est épargné. Mais là, à ce moment-ci, il n'y a pas à être épargné parce que c'est pas un problème là, que les Ravens vivent. Ils ont quand même une fiche gagnante. Tout va pour le mieux, une seule défaite. Donc, non, il n'est pas épargné. Là. C'est juste que il y a des petits problèmes qui pointent tranquillement à la surface. Mais pour l'instant, il n'y a pas lieu là, de s'inquiéter outre mesure, je pense.
Je suis un peu dans la même veine. Je pense que les... Lamar Jackson joue un peu moins bien que l'an dernier, mais quand tu regardes les statistiques, il est vraiment pas loin de ses stats de l'an passé. Là. Où ce que je rappelle, il a été quand même le joueur le plus utile de la ligue. Son pourcentage de passes complétées a passé de 66 à 63%. C'est pas une baisse catastrophique. Au niveau des interceptions, son ratio, je pense, c'est 10 passes de toucher, 2 interceptions. Il a fini l'an passé à 36-6. Donc, si tu fais des projections un petit peu, ça risque de ressembler à ce qu'il y avait un peu l'an passé comme ratio. Donc, écoute, les stats font... au niveau des purement statistiques, ça ressemble quand même à ce qu'il faisait. Mais je pense que pour l'avoir vu un petit peu sur le terrain, il est pas aussi époustouflant que l'an dernier. Mais je pense quand même que les Ravens sont en train d'essayer de préparer un carrière qui, si advenant le fait que les Ravens tirent à l'arrière, est-ce qu'ils vont être en mesure de revenir par la passe? Je pense vraiment que c'est ça que les Ravens essaient de préparer avec Lamar Jackson, parce qu'on le sait qu'il est capable de courir, ça c'est d'une évidence. Donc, est-ce qu'il est capable de s'améliorer assez pour remporter un match seulement avec son bras? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je pense que c'est la même question que les Ravens se posent présentement, puis essayent de tout simplement régler ce problème-là.
OK, puis parlant de corps arrière, il y en a un autre là qui, lui, fait un petit peu plus face aux critiques, c'est Baker Mayfield. C'est un jeune aussi, il a été repêché dans les mêmes années que Lamar Jackson. Est-ce que lui, il va rebondir cette semaine contre Cincinnati?
Cette semaine, oui, mais moi, je commence vraiment à douter, je dirais, de son talent global. Est-ce que est-ce qu'il mérite son premier rang? Il a été choisi premier de tout le repêchage de son année, ce qui était 2018, si je me trompe pas.
Ouais.
Donc, 2018, ça a été le premier choix au repêchage de la NFL. Est-ce qu'il joue présentement comme son rang l'indique? La réponse est non. Pour moi, quand t'es repêché aussi haut, faut que tu démontres que t'es spécial. Baker Mayfield m'a pas montré qu'il est spécial comme carrière. Il m'a montré que c'est un bon carrière de la NFL. Il est capable de jouer dans cette ligue-là. Il est capable d'être bon, mais il est capable aussi d'être mauvais. Et je pense qu'il va continuer à s'améliorer tranquillement. Mais c'est ça que je vois quand je vois de Baker Mayfield. Je vois pas un gars qui répond aux attentes qui étaient très hautes placées en lui. Ceci étant dit, j'aimerais aussi également voir des meilleurs signes d'amélioration dans son jeu, spécialement au niveau des lectures. Dans ses lectures de jeu, je trouve que trop souvent, il regarde seulement sa première option, puis c'est très, très rare qu'il passe à sa deuxième et à sa troisième dans les dépanneurs, ce qu'on appelle les check-downs souvent. Ça arrive à peu près jamais. Puis quand je regarde les matchs des Browns, c'est souvent ce qui est disponible. Les défensifs sont pas connes. Ils savent que quand ils jouent contre Baker Mayfield, faut arrêter les zones intermédiaires, la zone profonde, puis laisser ce qui est proche de lui parce qu'il ne l'utilise pas. Mais quand il va commencer à utiliser sa deuxième, sa troisième lecture, là, il va devenir vraiment plus dangereux comme carrière.
Moi, dans le cas de Mayfield, tu sais, c'est des éléments de base de son jeu qui m'inquiètent en ce moment. Tu sais, sa présence dans la pochette. On parlait des fantômes de Sam Darnold depuis l'an dernier, là, mais Baker a tendance à en voir aussi. Il vient les pieds fous là, très rapidement. Il sort de la pochette, c'est ça, très rapidement. Alors que des fois, le jeu est simplement de rester là, de progresser verticalement dans ta pochette, puis d'attaquer peut-être le milieu du terrain. C'est pas nécessairement ce qu'on voit. Puis, Jean, tu disais, je pense qu'il va continuer de s'améliorer tranquillement, pas vite. Je le souhaite, honnêtement. On souhaite tous là, que les Browns se sortent de leur marasme. Mais j'ai peur que Mayfield, on assiste déjà à son plafond. C'est ce que je me demande. Parce que quand tu regardes tout ce qu'on lui a donné depuis 2 ans, il y a maintenant un groupe de receveurs qui est vraiment incroyable. Il y a un champ arrière extraordinaire. Même Nick Chubb est blessé, là, mais quand même, quand Nick Chubb est là avec Kareem Hunt, tu peux pas vraiment demander mieux comme combinaison. Tu as une ligne à l'attaque qui est vraiment plus performante que par le passé, là. Alors, jusqu'à quel point qu'il faut que tu investisses autour de lui pour lui permettre de s'améliorer? C'est ça que je me demande à un moment donné. Quand je parle de plafond, est-ce qu'on a déjà assisté au meilleur de Baker Mayfield? C'est ça qui m'inquiète beaucoup là, dans son cas actuellement.
C'est un bon point. C'est à refaire. C'est sûr que quand tu regardes les carrières qui ont été repêchés cette année-là, il y en a pas tant qui... Josh Rosen, Sam Darnold, il y a Josh Allen puis Lamar Jackson qui tirent leur épingle du jeu, clairement.
Ce qui est drôle, c'est qu'on parlait à ce moment-là, moi je me rappelle avant le repêchage, dans les analyses et tout, là, c'était une cuvée exceptionnelle, alors que l'année d'avant, 2017, il y avait des gros doutes, ouais, de Sean Watson, on sait pas comment son jeu va se transférer chez les pros, Patrick Mahomes, c'est un gunslinger, mais on sait pas comment ça va virer. Ça nous prouve à quel point le repêchage est une science inexacte, puis qu'à chaque année, ben, on peut bien essayer de prétendre qu'on sait ce qui va se passer, là, mais c'est vraiment, vraiment flou là, en termes de projection puis de ce qui arrive en réalité.
Hey les gars, vous êtes deux spécialistes, là, j'ai vraiment besoin de vous autres. Là. J'ai une question. Quelle est la pire et quelle est la meilleure équipe de la NFC East?
Ouf! Question redoutable, Jean-Nic. Ça, c'est pas facile à répondre, ça, parce que la pire et la moins pire, parce qu'on dira pas la meilleure, la pire et la moins pire, c'est très, très mince, là, la ligne. Moi, j'ai quand même tendance à dire que les Cowboys devraient, logiquement, terminer au sommet. J'aime les Eagles quand même, mais les Eagles sont tellement troués de blessures depuis 2-3 ans, puis cette année, c'est pire que pire. Ça n'arrête pas de tomber comme des mouches. Je vois pas comment ils vont pouvoir se remettre de ça. Là. Donc, j'ai comme l'impression que les Cowboys vont gagner cette division-là, mais un peu par défaut. Là. Je m'attends pas à une fiche qui soit très reluisante. Pour ce qui est de la pire, écoute, j'hésite entre les deux autres. J'y vais avec Washington pour ma part parce qu'il y a tout simplement pas de solution à l'attaque. Que tu reviennes avec Dwayne Haskins, que tu continues avec Kyle Allen, que tu donnes une vraie opportunité à Alex Smith. Je sais pas vraiment qui peut sortir l'équipe du Bourbier en ce moment. Je le vois pas trop. Il y a pas de jeu au sol. Il y a pas grand chose qui fonctionne. La ligne à l'attaque est pas bonne. En défensive, bon, il y a des aspects de jeu qui sont prometteurs. Je pense à la ligne défensive, entre autres, le front, là, qui a quand même des munitions très intéressantes. mais c'est pas une équipe qui a l'air d'être prête à se sortir du trou, là, vraiment pas. Alors que du côté des Giants, ben je vois au moins quelques signes encourageants du côté de la défensive, là, du moins. Donc j'y vais avec Washington, les 100 noms là pour moi qui vont terminer dernier, mais ça va être une lutte très très chaudement disputée pour être le plus mauvais là, entre eux et les Giants.
Bon, ben, je vais ajouter une autre question, Jean. C'est qui, quelle est la pire et la meilleure et à quelle fiche va se gagner cette division-là?
Oh!
Ça ouvre, là, tu rajoutes du piment
de complexité.
Première des choses, écoute, la NFC East, je me rappelle, ça a déjà été la fierté de la NFL là, pendant longtemps. Je trouve ça un peu triste de voir cette division-là être aussi mauvaise présentement. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut pas dire la meilleure équipe de cette division-là, c'est l'équipe la moins pire, qu'il faut dire. Et pour moi, la moins pire, c'est les Eagles, simplement parce qu'ils ont Carson Wentz, que présentement, quand je regarde les carrières qui sont là, ben c'est le meilleur carrière de cette division-là. Est-ce qu'il est capable de faire ce qu'il a fait l'an dernier, amener les Eagles en série avec pas de club, pas de receveur? Ben écoute, il l'a fait une fois, pourquoi pas deux? Donc, moi, je mets mon argent sur les Eagles. L'équipe, la moins bonne équipe des quatre, comme Stéphane, c'est Washington pour moi, pour les raisons qu'il a mentionnées. À l'attaque, à part McLaurin, sont vraiment, vraiment mauvais. C'est l'équipe de Washington. Je préfère quand même Washington en défensive que les Giants, mais écoute, ils sont tellement horribles à l'attaque. Écoute, c'est Washington pour moi.
Et combien les Eagles auront besoin de victoires pour gagner cette division-là?
8. Ça va se gagner à 500 pour la première fois depuis un petit bout de temps là, dans la NFL. 8-8, ça devrait être
suffisant. Même qu'ils ont déjà un match nul, eux. Là, fait que,
ouais, ben d'abord, dans leur cas, ça finirait peut-être 7-8-1. Là.
Incroyable. Hey, on poursuit les gars. Est-ce que, parlant d'incroyable puis parlant de division qui va pas très bien, est-ce que Mike Zimmer est sur le hot seat à Minnesota?
Les choses vont vraiment pas bien là, pour les Vikings, puis spécialement pour leur carrière. Kirk Cousins qui écoute, accumule les interceptions plus vite que je dirais. Ma blonde les sacoches simplement là, tu sais, ça va vraiment vraiment rapidement. Dans le cas de Zimmer, moi je pense qu'il est pas sur le hot seat. Je pense qu'il y a son passé va faire en sorte qu'il va avoir une saison de répit, mais par contre l'an prochain, si ça va pas au goût des dirigeants et des proprios des Mauves, ben il va se faire montrer, je pense, la sortie. Mais pour cette année, moi, je pense qu'il est safe. Mais écoute, ça reste la NFL. Les choses changent rapidement.
Ouais, ben ça dépend. Puis comme il y a un point que j'amenais dans une autre émission, aussi bien le répéter, là, mais il y a un détail technique qui est le fait que Mike Zimmer a eu une extension l'été passé. Ça ferait spécial de le mettre dehors tout de suite, ouais, même pas un an plus tard. Mais écoute, on a déjà vu des cas comme ça, là, ça arrive. Si la déconfiture se poursuit contre des très mauvaises équipes, on a vu là, contre Atlanta la semaine passée, c'était vraiment pas chic. Peut-être que ça va forcer les propriétaires à ravaler leur chèque et à dire « Écoute, on n'a pas le choix, il faut aller dans une autre direction. » Mais moi, je pense comme Jean qu'il y a une autre saison là, pour se prouver. C'était la grande vadrouille là, du côté de la défensive cette année. On a reparti à peu près tout à neuf. Ça demande certainement une phase d'ajustement. Moi, je m'attendais pas à si pire que ça. Personnellement, je voyais Minnesota tomber de défensive de tête à défensive de milieu de peloton. Là, ils sont clairement en queue de peloton. Là, c'est parmi les pires de la Ligue. 192 points accordés déjà. C'est le deuxième plus haut total de points concédés. Donc, écoute, il va s'en sortir fort probablement à cause de son contrat. Mais ça va être une situation à surveiller de près l'an prochain.
OK, les gars, on va retourner à notre chronique déprimée, pas déprimée. On sait que les magasins de sacoche près de chez Jean sont pas déprimés, mais on va prendre Ezekiel Elliott comme premier témoin cette semaine. Est-ce que lui, il accumule les fumbles comme ta blonde accumule les sacoches?
On va essayer de laisser ma blonde de côté 30 secondes, les gars. Là. Écoute, on va dire qu'il est pas déprimé, moi, dans mon cas. Je pense qu'il a soutiré assez d'argent dans son compte en banque à Jerry Jones lors de son dernier contrat, que ça peut peut-être le consoler pour l'instant de quelques semaines, mais une chose est sûre, c'est qu'il devra se ressaisir rapidement. C'est pas un porteur de ballon qui nous a démontré dans le passé qu'il y avait des problèmes à garder le ballon entre ses mains. À Ohio State aussi, il était très, très solide à ce niveau-là. Donc, je m'attends à ce qu'il se ressaisisse. Il est pas heureux de la situation, évidemment, avec les Cowboys, mais je pense pas qu'il est encore déprimé.
Peut-être pas déprimé pour l'instant, mais pas loin, parce que c'est sûr, je suis d'accord avec Jean, ça n'a jamais été un problème dans sa carrière, que ce soit universitaire ou pro. Sauf que là, c'en est un, puis un vrai. On parle de 4 échappés perdus, là, vraiment. Pas juste échapper le ballon, puis ah, les Cowboys le reprennent. Là. 4 échappés perdus dans le cas d'Eliott, là, à leur premier match. Là, c'est vraiment un facteur très négatif. Les gens peuvent bien blâmer Andy Dalton pour la débauche, la débâcle, c'est-à-dire face aux Cardinals. Mais un des responsables les plus importants de cette défaite-là, c'est Elliott avec ses 2 fumbles. Donc, faut vraiment qu'il se reconcentre sur cet aspect-là de son jeu. C'est important. Puis, malheureusement, là, pour les Cowboys, la ligne à l'attaque n'est plus ce qu'elle était. Hein. Ça aussi, là, ça joue dans la tête d'Elliott, certainement. Le centre Travis Frederick qui est parti, les 2 bloqueurs partants, Lyle Collins et Tyron Smith, qui sont finis pour l'année. Zach Martin, le garde étoile, qui a été victime d'une blessure dans le match face aux Cards. C'est plus du tout l'institution que c'était, là, la ligne à l'attaque des Cowboys. Donc, Elliott voit du monde beaucoup plus rapidement qui arrive sur lui, qui tente de y enlever le ballon. C'est un autre défi complètement. Il va falloir qu'il se ressaisisse, puis vite.
Un autre running back qui voit, qui entend le souffle dans son dos, c'est Clyde Edwards-Helaire, là, qui a vu cette semaine les Chiefs additionner Le'Veon Bell sur leur roster. Est-ce que lui, il doit être déprimé ou pas déprimé?
Moi, je pense qu'il est aucunement déprimé. Ça reste une recrue qui est présentement avec une formation qui a une bonne chance d'aller au Super Bowl. Il est partant pour cette équipe-là. Et en plus, il a répondu de la meilleure façon qu'il pouvait le faire, c'est-à-dire en alignant plus de 150 verges contre les Bills, en sachant que Le'Veon Bell s'en venait dans sa formation. C'est sûr qu'il va avoir moins de terrain, surtout, moi, je pense, dans les situations de court gain, ça va être plus M. Bell qui va se faire appeler à la plaque, mais ceci étant dit, moi, je pense qu'il il file le parfait bonheur, Clyde Edwards-Helaire.
En fait, c'est pas Clyde Edwards-Helaire qui est déprimé, c'est ses propriétaires fantasy des 2 joueurs. Je pense que c'est là que ça fait le plus mal, parce que comme tu le disais, Jean, il y en a un qui va voler des touches à l'autre près de la zone des buts. Bell va enlever quelques réceptions de passe aussi à Helaire. Donc, c'est un cauchemar fantasy, ça, mais c'est pas le point le plus important. Le vrai football réside surtout. Et dans le cas de Clyde Edwards-Helaire, il n'y a pas de danger de perdre son poste. Là, je pense qu'il a démontré jusqu'à maintenant qu'il pouvait être un porteur de ballon partant et régulier puis constant dans la NFL. Donc, il va conserver là, la majorité du travail dans le champ arrière. Mais reste que quand ça commence à se gruger à gauche, à droite, là, une petite portée par là, une petite réception par là, c'est bien, bien, bien fatigant pour les amateurs de fantasy football.
Est-ce que Juju Smith-Schuster devrait être déprimé ou pas déprimé?
Non, moi, cette semaine, je tiens les joueurs loin des comprimés. Pour Juju, c'est la même chose. Il n'est pas encore déprimé. Son club est invaincu. Oui, il est utilisé beaucoup plus sur ses qualités pour bloquer présentement, mais ça reste que c'est un sapré bon joueur de football. J'ose croire que les Steelers vont l'inclure un peu plus dans les plans de match offensifs. J'imagine que ça s'en vient. Puis je pense qu'il y a quand même trop de talent pour rester avec des réceptions, un nombre de réceptions aussi bas. Donc, moi, je prends un peu de patience dans le cas de Juju.
Ouais, même chose ici. Il n'y a pas de raison d'être déprimé, surtout quand les choses collectivement pour ton équipe vont aussi bien. C'est ce que j'ai hâte de voir dans son cas. Tu sais, c'est pas un receveur qui a fait des vagues jusqu'à maintenant, comme on en voit tellement à travers la NFL. Là. Je veux le ballon, je veux le ballon, je veux le ballon. Puis si ça marche pas, je fais une crisette sur le long des lignes de côté. Jusqu'à maintenant, c'est pas ce qu'on a vu de Smith-Schuster. Est-ce que c'est le personnage qui va éclore tôt ou tard? Je penserais pas. Mais c'est quand même l'élément qu'il faut surveiller, là, parce que c'est déjà arrivé dans le passé, notamment chez les Steelers, là, avec Antonio Brown, toutes sortes de crises pour toutes sortes de raisons. Jamais parce qu'il n'a pas assez eu le ballon, là, par contre. Mais non, j'ai l'impression que un talent comme Smith-Schuster, tu peux pas faire autrement à un moment donné que de l'alimenter. Puis c'est peut-être un petit passage à vide qui devrait se corriger là dans les prochaines semaines.
Avec toutes ces blessures, là, on a encore besoin d'aide pour notre fantasy. Les gars, qui vous nous suggérez d'aller chercher comme joueurs? Tu as peut-être mettre sur le banc ou peut-être même les faire jouer?
Ben, Toua, messieurs, oui, voyons. Oui. Si vous l'avez pas, Toua, allez le chercher tout de suite. Ça presse dans les ligues en format dynastie où on garde nos joueurs d'année en année. Je suis convaincu que c'est déjà fait, là, c'est pas la question. Mais ceux qui jouent plus à la petite semaine, puis qui attendait, puis qui se disait, ben ça va être quand, je suis mieux de le laisser aller, tout ça, là, c'est le temps, go, aller le chercher sans hésitation. Pis sinon, écoute, c'est rare qu'on va faire ça dans zone payante, là, je m'excuse à l'avance, un joueur des Jets qui pourrait peut-être donner quelques points dans les prochaines semaines, on parle si vous êtes vraiment mal pris, on s'entend, hein? LaMichael Perrine, porteur de ballon recru, un choix de quatrième ronde. On sait, Bell est parti. Frank Gore essaie de faire de son mieux avec une équipe carrément minable. Puis il arrive plus. Il semble malheureusement au bout du rouleau. Ça fait de la peine de dire ça d'un vétéran que je vénère. Sincèrement, Frank Gore, là, c'est un demi-dieu. Mais il semble que là, le mur du temps l'a enfin frappé. Est-ce qu'on va donner plus d'opportunités à Perrine dans les prochaines semaines? C'est ce que Adam Gase semblait dire, donc peut-être que ça arrivera pas puisqu'il le dit. Mais en tout cas, voyez ça comme une munition là dans votre petite poche arrière, mais tu sais, c'est vraiment pas pour aller gagner un championnat, mais comme, OK, je surveille une situation du coin de l'œil, c'est plus comme ça que je le vois.
De mon côté, je me tourne vers les Niners de San Francisco, la blessure à Raheem Mostert, le porteur de ballon. Donc, je vous conseille d'aller chercher Jamichael Hasty, le porteur de ballon, l'ancien des Baylor, de l'Université Baylor. C'est un gars qui est explosif, puis la semaine passée, le monde pensait que c'était McKinnon qui aurait le plus de portée, mais c'est Hasty qui en a eu le plus. Au pire, selon moi, ils vont peut-être splitter le ballon 50-50, donc ça serait une bonne acquisition pour les équipes, pour votre équipe fantasy.
Merci les gars. Après la pause, c'est l'heure de vos prédictions et on va entre autres s'intéresser au match des Steelers contre les Titans.